Maulwülflein. Printemps 1978. Jaime Fuerte Villanueva arrive sur le lieu de son affectation du jour. Une petite friche industrielle dans la proche banlieue de Sepúlveda, à 2 heures de voiture au nord de Madrid. La zone vient d'être achetée par un promoteur immobilier qui songe à y implanter des commerces. En attendant que les travaux commencent, Jaime est chargé par son employeur de surveiller la zone et chasser d'éventuels squatteurs de toutes sortes. SDF, gamins venus faire du skate ou des graffitis, drogués ou invertis. Jaime prend cette mission avec beaucoup de sérénité. C'est une sinécure en comparaison d'avoir à faire le vigile à l'entrée d'un supermarché, ou pire, gardien de nuit dans une centrale d'achat. Ici, il est en plein air, seul, à déambuler dans les hectares de terrain clôturé. Quant à exercer son pouvoir d'autorité, il ne s'en fait pas. Il sait que tout doit être rasé avant qu'on ne bâtisse quoi que ce soit d'autre. Donc peu importe qui s'amuse ici en attendant. À moins d'une catastrophe, il est peu ou prou payé à profiter des beaux jours qui s'installent. D'ailleurs, Jaime a bien une petite idée derrière la tête pour occuper ses longues journées de surveillance. Il va, et ça fait partie de son assignation, visiter méthodiquement les lieux et y repérer tout matériau susceptible d'intéresser son ferrailleur de cousin Silvio. S'il trouve suffisamment de matière, Silvio viendra charger dans sa camionnette tout ce qui l'intéresse pour aller le désosser tranquillement chez lui et revendre au poids ce qui a encore de la valeur. Les cousins partageront le bénéfice de leur rapine et dépenseront certainement cet argent de poche dans l'une ou l'autre de leurs bodegas favorites. Rien qu'à cette idée, Jaime en salive déjà. Mais il est encore trop tôt pour attaquer son sandwich et sa bière de midi. Laissant ses affaires dans son bureau, une petite baraque de chantier installée pour l'occasion, Jaime commence sa ronde, son carnet de notes dans la poche, avec un aimant et un pied à la coulisse. C'est important pour le cuivre. Le lieu abritait une fabrique construite durant l'entre-deux-guerres. D'après son employeur, le site est à l'abandon depuis la guerra civile. Les quelques bâtiments témoignent de l'époque où ils ont été construits. 3 grands hangars aux murs de briques rouges sombres, percé de hautes et étroites ouvertures dans lesquelles on peut encore voir les formes arachnéennes des fenêtres à petits carreaux carrés dépolis. Un 4e bâtiment, plus petit en proportion mais architecturalement plus majestueux, devait sans doute abriter les bureaux. Jaime se dirige vers celui-ci en premier, se disant que c'est sans doute l'endroit où il trouvera le moins de choses intéressantes. Puis il explorera les 3 usines. Bien que l'intérieur soit labyrinthique, Jaime ne met qu'une petite heure à parcourir la dizaine de pièces du Castillito, comme il l'appelle. Sur son carnet, il n'a pas noté grand-chose. Quelques chaises, encore en l'état, peut-être 1 ou 2 bureaux. Des armoires métalliques épargnées par la rouille et quelques mètres de tuyauterie. Malheureusement, que du plomb. Dans le premier hangar, Jaime note les immenses abat-jours en métal qui éclairaient le vaste espace. Il a souligné 2 fois les fils électriques. Ceux d'époque gainés de tissus tressés et cirés, et qui étaient tout en cuivre. Il y en a encore des dizaines de mètres. Nul doute que le cousin Silvio sera content de venir lui rendre visite, rien que pour cette trouvaille. Il a également noté des reliques de machines-outils, mais il est incapable de juger s'il y a des choses à récupérer dedans. Dans le deuxième hangar, il se contente, dans un premier temps, de cocher les mêmes trouvailles. Puis il se rend compte que ce bâtiment a souffert d'une petite catastrophe. Une petite montagne de gravats bloque le fond de l'usine, comme si une partie d'un mur ou du toit s'était effondrée. Sauf qu'à bien y regarder, les 2 se tiennent encore debout. Intrigué, Jaime s'approche pour examiner de plus près. De l'autre côté du monticule de pierre et de ciment, il découvre un amas de tôles froissées et rouillées. Jaime n'est pas idiot. Il se rend vite compte que les plaques métalliques ne devraient pas se trouver là. Précautionneusement, pour éviter de se blesser bêtement, il parvient à en écarter suffisamment pour découvrir ce qui se trouve en dessous. Pendant un instant, il se demande ce qu'il est en train de regarder. Au début, il a l'impression de voir un vieux char Renault FT, ce qui en soi serait un véritable trésor. mais les formes générales ne collent pas. Et puis, il y a du bois en dessous des plaques de blindage, comme si on avait renforcé un wagon de chemin de fer. Jaime sort sa lampe de poche et fait parcourir le pinceau lumineux dans la petite grotte formée par l'empilage de tôle. Il ignore encore ce que ça peut bien être, mais c'est à ne pas se tromper un véhicule. Sa lampe s'arrête sur une petite plaque en laiton rivetée sur la coque. Il peine à épeler les lettrines gothiques chantournées. « Die Maulwurflein M. Kleinwerk ING ». Une machine de guerre allemande ? Incroyable ! Jaime avise, juste à côté, un sas entrouvert. Il parvient à se faufiler derrière les plaques de tôle et, dans un grincement que l'acoustique du hangar fait résonner en diable, ouvre suffisamment le sas pour y entrer. Avec 1000 précautions, il explore l'intérieur étriqué mais étonnamment confortable. L'espace central ressemble à un salon chic du début du siècle, avec une table centrale rivetée au sol, entourée de banquettes au cuir pourrissant. Des rangements astucieux habillent les parois du sol au plafond. Au fond, un poste de pilotage rappelle ceux des locomotives à vapeur, avec son enchevêtrement de tuyaux, de manomètres et de leviers. Jaime a les yeux qui brillent. C'est le jackpot pour lui et son cousin. Sans perdre plus de temps, il retourne à l'air libre et se précipite dans son cabanon près de l'entrée. Il saisit le combiné et compose fébrilement le numéro qu'il connaît par cœur. Hola, primo! Tu n'imagines même pas sur quoi je viens de tomber.
Madame Yokana?
Je vous écoute. Vous l'avez?
Nous avons effectivement retrouvé le Maulwurflein, mais...
Oui, j'imagine qu'il n'est pas fonctionnel. Le retour a été précipité et improvisé.
Je crains que...
Quoi ? Expliquez-vous.
Entre le moment où nous avons intercepté l'appel du gardien et notre intervention, il s'est écoulé plus de 24 heures.
Et alors ? Venez en fait.
L'appareil a été désossé. La coque est encore là, mais ils ont récupéré tout ce qui était à l'intérieur.
Oui, vous n'avez rien retrouvé du tout. Vous l'avez exploré à fond ? Vous n'avez rien vu qui ressemble à l'appareil que je vous ai décrit ?
Non, madame, je suis désolé.
Bon, fin de mission, repliez-vous. Nous allons aviser ce qui nous reste comme option. C'était Maulwurflein. Un conte dans l'univers de la Société des vieilles têtes à long chapeau. Écrit, narré et mis en son par Vincent Corlet. Produit par Georges Fauveau et Vincent Corlet pour l'association Son mot à dire.